Voilà, merci. Ce n'est pas tous les dimanches que j'ai pris en anglais à haute voix à Sonera, n'est-ce pas? Bien, je vous invite à trouver un verset dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Comme cela a été dit, aujourd'hui, le thème de la journée, c'est l'hospitalité. Et les anciens m'ont demandé de traiter ce thème ce matin dans le message. Donc, le titre, c'est, comme c'est marqué sur l'écran, « Être un chrétien hospitalier sans travailler en milieu hospitalier ». Alors, je lis trois versets dans Romains 15 pour introduire ce thème. Romains 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. L'accueil fraternel, l'hospitalité, et dans les maisons, et dans nos églises. Alors, trois choses à dire dans l'introduction. Première chose, quelques définitions. Parce que le sujet de l'hospitalité est un sujet important, c'est un sujet qui est vaste, et c'est aussi un sujet qui est biblique. Alors, première chose, définition. L'hospitalité, selon le dictionnaire que j'ai consulté, se définit de la manière suivante. L'hospitalité est la libéralité qu'on exerce en logeant un étranger gratuitement. Voilà une définition. Deuxième définition, l'hospitalité, c'est le fait d'accueillir chez soi généreusement et aimablement. On pourrait rajouter des mots ou des phrases pour rallonger, développer ces définitions. Être hospitalier, c'est tout simplement quelqu'un qui exerce volontairement, sans pression, l'hospitalité. Je pense à ce que David a dit à sa future femme Abigail, « Je t'ai bien écouté, je t'ai bien accueilli ». C'est pas mal, accueillir et écouter. 1 Samuel 25, 35. Deuxième chose, explication. Tout chrétien ne peut pas pratiquer l'hospitalité. Tout chrétien est exhorté à mettre en pratique, à être hospitalier, mais tout chrétien ne peut pas mettre en pratique l'hospitalité. Il y a parfois des raisons de logement. On habite dans un 12 mètres carrés. Si on va inviter une famille avec 15 enfants, bon, il y aura quelques problèmes pratiques. Un petit logement, un logement trop exigu, on ne peut pas avoir du monde. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a des raisons de famille. Le conjoint n'est pas converti, ou le conjoint est franchement hostile aux chrétiens, allergique aux chrétiens. Donc, il n'est pas conseillé au conjoint converti d'inviter toute l'église pour le repas du dimanche midi. Ou d'autres problèmes dans la famille. Des questions d'enfants. Les enfants en bas âge, les enfants qui sont ados, les enfants qui sont en études, parfois c'est compliqué d'avoir du monde à la maison à cause de nos enfants. Il y a aussi des raisons financières. Plusieurs personnes m'ont dit, ah, ça coûte cher d'avoir du monde à la maison. Alors, oui, ou alors non. C'est vrai ou c'est faux? On va y revenir. Il y a des questions de santé. On a passé une semaine hyper bouquée, hyper fatigante, et le dimanche, bon allez, on lève le pied, on n'a pas quelqu'un ce dimanche. Soit on est fatigué, ou soit on a des vrais problèmes de santé chroniques, et on ne peut pas supporter physiquement d'avoir du monde à la maison. Il y a d'autres raisons, mais en disant cela, je veux, et je crois que les anciens ne veulent surtout pas que des gens se sentent coupables parmi nous, parce que vous ne pouvez pas exercer l'hospitalité. Nous ne voulons culpabiliser personne. On veut viser personne en cette journée consacrée à ce thème d'hospitalité. Même si tout chrétien est exhorté à pratiquer l'hospitalité, comme je disais, tout chrétien ne peut pas le faire. Cependant, nous parlons à la fois de l'hospitalité chez soi et aussi de l'accueil à l'Église. Il me semble que tout chrétien peut quand même accueillir à l'Église, dire un petit bonjour. Ça ne coûte rien, à mon avis. Un petit sourire, serrer la main, faire une bise. Tout chrétien, je pense, pourrait faire cela. Troisième chose en introduction. L'introduction est presque plus longue que le message, donc rassurez-vous. Je tiens, et avec Brigitte, nous tenons à remercier ceux parmi vous qui nous ont offert l'hospitalité pendant les 18 mois avant notre installation ici à Lyon. Donc dans les années 2011-2012. Nous avons été souvent invités, soit pour un repas, une nuit ou un week-end, et nous tenons à remercier ceux qui nous ont invités, et on tient à remercier ceux qui se sont proposés à nous avoir, mais dont les dates ne coïncidaient pas. Donc merci beaucoup de l'hospitalité avant notre installation et aussi depuis que nous sommes installés ici à Lyon. Quelques versets bibliques qui vont s'afficher sur l'écran. Je les lis au fur et à mesure. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Hébreux 13, 1 et 2. Et ce verset continue en disant, certaines personnes ont reçu même des anges sans le savoir. 1 Pierre 4, 9. Exercez l'hospitalité les uns avec les autres sans murmure. Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Matthieu 25, 25. C'est Jésus qui parle. Car j'ai souffert et de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. Et lorsque les gens disent à Jésus dans le verset suivant, mais quand, Jésus dit, quand vous avez fait ça à un de ces petits, c'était moi que vous l'avez fait. Et la famille de Stéphanas à Corinthe, ils se sont spontanément consacrés au service du peuple de Dieu en se mettant avec toute leur maison à la disposition des chrétiens. Les chrétiens étaient à la disposition des chrétiens et il me semble que leur maison était à la disposition des chrétiens. Et on va y revenir. C'est un sujet biblique. Il y a des versets bibliques qui en parlent. Et il y a aussi des exemples bibliques. Alors, un petit culte interactif. Est-ce que vous pensez, vous, à des exemples bibliques où des gens ont reçu des gens, parfois des étrangers, chez eux pour un café, pas un café à l'époque, hein, pour une boisson, pour un repas, pour les nuits. Alors, puisque le message est enregistré, si vous criez quelque chose, je vais redire dans le micro, à condition que votre réponse soit correcte. Hein. Alors, qui pense à un exemple biblique, quelqu'un qui a reçu quelqu'un chez lui, chez elle? Alors, très fort, Vali. La veuve de Sarepta qui a reçu le prophète Élisée. Très bien. Qui a-t-il reçu? Ah oui. L'ange de l'Éternel qui vient, exactement. Qui d'autre? Zachée. Un Zachée en plastique? Non, Zachée, oui, c'est vrai. Zachée qui a reçu Jésus, Luc 19. Émilie. Ah, tout à fait, Rahab, qui reçoit deux espions juifs dans la ville de Jéricho. Très bien. Josué, chapitre 2. Rahab, oui, ça a été dit, Rahab, tout à fait. Quelqu'un d'autre? Lot, il a reçu chez lui qui? Des anges. Dans quel livre de la Bible? Genèse 29. Marthe et Marie. Jésus allait souvent chez Marthe, Marie et Lazare. Une famille d'accueil, une famille où il pouvait se reposer, se détendre. J'ai une quarantaine devant moi, je vais vous lire vite fait. Jacob chez Laban. son tonton. Moïse, chez la fille de Pharaon. Les fils de Jacob, chez Joseph d'abord, et puis ensuite, chez le Pharaon en Égypte, qui leur donne des terres, chez lui. Moïse, chez son beau-père Jéthro, là où il a rencontré d'ailleurs sa future femme. Ruth, chez Naomi. Samuel, le petit, chez Élie. David, chez Arimélec, le sacrificateur. Mephibosheth, chez David, la reine de Séba, chez le roi Salomon. Élie, chez la veuve de Sarepta, qui était dit, et Élisée, chez les Sunamites. Pierre, chez les chrétiens à Lydda, acte 9. Pierre, chez Simon, acte 10. Deux serviteurs et un soldat de Corneille, chez Simon, acte 10. Pierre et d'autres, chez Corneille, acte 10. Acte 10, c'est un chapitre très hospitalier, hein. Marie, qui reçoit une réunion de prière, un groupe de quartier, chez elle, dans acte 12, lorsque Pierre est libéré de la prison. Paul et ses amis, chez Lydie, acte 16. Paul et Silas, chez le jour des Philippiens, qui leur donne une douche, un repas, qui se convertit, qui se fait baptiser dans la foulée. Pas dans la douche, hein, dans la foulée. Ensuite, Apollos, chez Aquila et Priscilla, un couple très hospitalier. Philippe l'évangéliste reçoit Paul souvent chez lui. Paul reçoit du monde dans la maison qu'il a louée lorsqu'il était à Rome, acte 28. Il est question d'une église de maison chez Priscilla et Aquila. Il est question d'une église de maison chez Gaius dans Romains 16. Une église de maison chez Philémon dans Philémon 1 et 2. Jésus est reçu chez Lévi ou Matthieu pour un repas après sa conversion. Simon le lépreux reçoit Jésus pour un repas et une étude biblique. Le propriétaire de la chambre haute, il donne sa chambre, la pièce, à Jésus et à ses disciples. Jésus anime une étude biblique passionnante chez deux disciples qui habitent à Emmaüs, Luc 24. Et il y a d'autres exemples. Mais tout ça pour dire que c'est un sujet vaste et c'est un sujet biblique et un sujet tout à fait pratique. Alors, parlons de l'aspect pratique. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer l'hospitalité? Alors, ça peut vouloir dire inviter quelqu'un pour un café, pour une boisson fraîche, pour un repas, pour une douche, pour une nuit, pour quelques jours, pour une réunion. Pour l'apéritif, ça peut être pour un repas à la Paul Bocuse, ou ça peut être un repas vraiment tiré des sacs. Quand on invite quelqu'un, il me semble que la personne qui reçoit ne doit pas se sentir obligée de toujours parler. J'ai été chez des gens, parfois, personne ici présent bien sûr, mais qui se sentait toujours obligée de me parler. Et ça parle, de tout et de rien, parfois que des questions théologiques. Mais quand on reçoit, on n'est pas obligé de parler tout le temps. Et s'il y a des silences, des blancs, eh bien ne soyons pas gênés. Quand on invite des gens, parfois, on a besoin surtout de les écouter. Ou alors de parler de la pluie et du beau temps. Parce qu'en invitant, on veut, dans un sens, mieux connaître l'autre, et mieux comprendre l'autre. Quand on invite aussi, s'il y a des enfants qui viennent, je dirais, il faut éviter d'ignorer les enfants, ou de faire semblant que les enfants ne sont pas là. Parce que, par expérience, j'ai appris que quand on ignore les enfants, eh bien, les enfants se font entendre. Et les enfants vont rappeler, on existe. Donc, il faut avoir aussi une politique par rapport aux enfants et une politique par rapport à notre comportement envers les enfants. Et si moi, je ne supporte pas les enfants, il vaut mieux que je n'invite pas une famille avec enfants. Parce que les enfants savent qui les supporte, qui ne les supporte pas, qui les aime, qui ne les aime pas. Alors, ce qui est vrai et ce qui est faux. Première chose, ce qui est vrai, comme je viens de dire, si vous n'aimez pas les enfants, n'invitez pas une famille avec des jeunes enfants. Si, par contre, vous invitez une famille avec des jeunes enfants, il vaut mieux cacher certains objets. Des objets que des petits enfants pourraient peut-être attraper et faire bondir par terre. Et des vases Louis XIV, des objets de valeur, ils vont jouer au rugby avec. Vous savez, chaque fois que nous emmenions nos enfants chez mes parents en Écosse, d'abord chez mon père et ma belle-mère enlevait plein de choses, de babioles qui coûtaient cher dans la maison. Et ben, on n'était pas du tout choqués parce qu'on savait que nos enfants allaient les enlever. Si elles n'avaient pas enlevé les objets et les casser. Donc c'était tout à fait normal. Comme ça, nous on était à l'aise, nos enfants pouvaient toucher à tout parce qu'il n'y avait rien de valeur. Et puis dès qu'on partait, ma belle-mère remettait les objets en place. Ne soyez pas gênés. Il faut être pratique. Parce qu'il faut que nous, on soit à l'aise. Il faut que les parents qui viennent aussi soient à l'aise. Autre chose qui est vraie, parfois dans la tranquillité d'un foyer où on invite des gens, les gens se sentent à l'aise pour nous faire des confidences. Et quand il y a des confidences qui nous sont faites dans l'intérêt de notre foyer, nous devons bien sûr être discrets et ne pas crier sur les toits tous les secrets, toutes les confidences qu'on nous fait. Si on ne sait pas être discret, il vaut mieux ne pas écouter les confidences et peut-être pas inviter du monde à la maison. Il faut être à l'aise. Se mettre à l'aise et savoir mettre à l'aise les gens qui viennent. Dans le cadre d'une église comme la nôtre, c'est sûr, il y a des gens qui nous accueillent à la porte, mais comme je disais tout à l'heure, tout le monde peut dire un petit bonjour à quelqu'un qu'on voit pour la première fois. Ce n'est peut-être pas la première fois que la personne est au culte, c'est peut-être la dixième fois, mais c'est peut-être la première fois que vous voyez la personne. Mais un petit bonjour, un petit accueil, sans sauter dessus pour poser tout un tas de questions, mais un petit sourire, ça ne fait pas de mal, et au contraire, ça fait beaucoup de bien. Ce qui est faux, inviter du monde peut coûter une fortune. Comme je disais, si on veut faire un repas à la Paul Bocuse, ça va coûter une fortune, j'imagine. Mais avoir du monde à la maison, on retient, quand on est invité quelqu'un, non pas la qualité du repas, mais plutôt la qualité de l'accueil, l'ambiance. Quand on prépare des couples au mariage qui veulent mettre vraiment un super repas, nous, on leur dit, mais pensez d'abord à l'ambiance lors de la soirée du repas de votre mariage. Parce que les gens vont oublier le repas. Mais s'ils sont venus à mourir pendant la soirée du mariage, eh bien, ils vont en parler à tout le monde. Ou si les animations sont nulles, ils vont parler à tout le monde. Donc, quand vous invitez du monde, vous n'avez pas besoin de faire des animations, hein. Les enfants peuvent le faire pour vous. Mais ils vont retenir le bon moment passé ensemble. Ce qui est faux, il faut avoir une grande maison avec 25 pièces. C'est faux. Il faut avoir des enfants parfaits avant d'inviter du monde. Eh bien, on n'aurait jamais invité du monde chez nous si on avait des enfants parfaits. Il faut toujours parler de la Bible quand on invite du monde. C'est faux. Avec des chrétiens, ça peut venir sur le tapis ou sur la table, c'est très bien. Mais parler toujours de la Bible, non. Et quand on invite des non-chrétiens, la chose à ne pas faire, c'est tout de suite, est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus pour être sauvé? Avant l'apéritif. Bon. Vous savez, il y a quelques temps, on a invité un couple de notre église ailleurs, un couple d'un pays africain, et le monsieur venait de rater l'élection de la présidence de la diaspora de son pays en France. Donc un pays africain, un homme engagé politiquement, il était avocat, son épouse était médecin, elle était convertie, lui pas. Donc elle voulait qu'on rencontre son mari. Donc ils viennent à la maison avec les deux enfants, et je me suis dit, bon, parler de la politique, surtout pas. Parler de ceci ou de cela, non. Et puis je me suis rendu compte que son pays venait de se qualifier pour la Coupe du Monde de football. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il va s'intéresser au foot? Bonne pioche. Alors, on a parlé de foot pendant une heure et demie. Son épouse et mon épouse se sont ennuyés à mourir. Tu vois qu'elles ont parlé des bébés. Mais Petit à petit, ce monsieur est revenu à la maison et il a pu lire la Bible et prier avec lui. Et il a commencé à venir assidûment au culte. Alors, je sais que si je l'avais bombardé dès le début de versets bibliques, je l'aurais perdu. Et j'aurais reçu un email de sa femme pour m'attaquer, pour me critiquer. Et elle aurait eu raison. Il y a un temps pour évangéliser et un temps pour ne pas évangéliser. Autre chose qui est fausse, il faut que ma maison soit parfaite avant d'inviter quelqu'un. Pas de la poussière, où que ce soit. Ou alors, il faut que mon jardin soit parfait. Pas de mauvaises herbes. Si vous avez des mauvaises herbes, invitez des groupes de jeunes pour une soirée de désherbage. Mais si vous voulez que votre maison soit parfaite, vous n'allez jamais inviter du monde. Et les gens qui viennent, même s'ils voient un peu de poussière, ben, c'est pas hyper gênant, à mon avis. Hein? Notre maison ne sera jamais parfaite. Notre jardin ne sera jamais parfait. L'importance de l'hospitalité. Eh bien, il me semble qu'en tant que chrétien, l'hospitalité chez nous, dans la mesure du possible, comme je disais tout à l'heure, est une chose très importante. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls et beaucoup de gens qui souffrent de la solitude. Il y a des gens qui sont seuls qui ne souffrent pas de la solitude. Il y a des gens en couple, en famille, qui souffrent de la solitude, même s'ils ne sont pas seuls. Et c'est une raison pour laquelle on peut et on doit être accueillant, soit à l'église, soit à la maison. Il y a beaucoup de gens soucieux, des soucis de famille, de travail, de voisinage, de santé. Et parfois, ces gens-là ont besoin de vider leur sac. Et dans la tranquillité d'un foyer, les gens peuvent vider leur sac et on peut prier avec eux. Au sujet de ceux qui sont seuls, voilà ce qui s'est passé il y a 2 ans dans une église où un de mes fils est arrivé. Il ne connaissait pas grand monde, étudiant. Il arrive dans une église et le premier dimanche de la rentrée, lors des annonces, le frère qui faisait les annonces a dit « Bon, qui est ici pour la première fois ?» Donc, près de 15 personnes se sont levées. « Ok, alors, est-ce que vous avez tous été invités à midi ?» Et ils ont tous dit « Ah non, on ne connaît personne. » D'accord, alors, ils se tournent vers les anciens et d'autres personnes qui étaient sur une liste d'accueil. « Bon, Fred, tu peux prendre combien ?»« 3, ok. 1, 2, 3, vous allez avec ce frère à la fin du, culte. »« José, tu peux prendre combien ?» 4. Oh, 4, ok. 1, 2, 3, 4, vous êtes... Ils ont fait ça. Ils ont dispatché les nouvelles personnes dans des familles d'accueil pour ce midi. Et de temps en temps, ils faisaient ça systématiquement pour les étudiants et pour d'autres personnes de passage. C'est une pratique intéressante qui a fait plaisir à mon fils. J'ai ma fille qui est en Angleterre en ce moment. Elle est arrivée dans une ville que vous ne connaissez pas. 25 personnes. La moyenne d'âge doit être 75 ans. Non, j'exagère. 74. Hein? Non, on va dire, moyenne d'âge doit être 50 ans. 55 ans. Donc, que des vieux pour elle qui a 20 ans, 22 ans. Mais tous les dimanches midi, tous les dimanches soirs, elle est invitée depuis 2 mois. Elle ne connaissait personne. Et aussi, en Angleterre, bien sûr, il y a aussi un petit goûter à 22h, ou 21h. Le supper. Elle est invitée pour ça aussi. Depuis 2 mois, tous les dimanches, elle sait que midi, soir et soirée, elle est prise. À tel point que ses colocataires lui ont dit, mais est-ce que c'est des membres de ta famille qui t'invitent tous les dimanches? Et elle a dit, ah ben oui, ma famille chrétienne, c'est des gens qui aiment le Seigneur comme moi. Et même parfois, elle est invitée en semaine. Et dans quelques jours, nous allons voir notre fille et un couple de l'église nous a dit, venez chez nous. On ne vous connaît pas, mais venez chez nous. Et puis, ils ont dû entendre parler de moi. Donc, ils ont dit, au fait, quand vous allez venir, on va s'absenter. Mais on vous laisse l'accueillir dans la maison. Venez chez nous. Ils partent en vacances. Ils nous laissent la maison. Ils ne nous connaissent pas. Mais ils connaissent notre fille. L'importance de l'accueil pour notre fille, pas de jeune, mais c'est son église pendant son année de stage. Parce qu'elle sait qu'il y a des gens qui l'aiment et qui montrent leur amour. Conclusion. Lorsqu'on accueille, lorsqu'on Voilà, c'est le verset depuis le début. Lorsqu'on met en pratique l'accueil fraternel aux chrétiens, il peut y avoir des bénédictions. C'est sûr et certain. Une fois, on a reçu un frère du Togo. Et il est venu à la maison. Et j'ai prié pour le repas. Je remercie le Seigneur. Et puis il dit, David, quels sont les noms de toutes les personnes autour de la table? Donc chaque personne s'est présentée. Et il dit, moi j'avais prié pour chaque personne avant de manger. Je ne peux pas manger avant d'avoir prié la bénédiction sur chaque personne à table. Et puis après, à la fin du repas, il nous a chanté un cantique dans sa langue. Et il nous l'a traduit après. Je peux vous dire, c'était une grande bénédiction pour cet homme qui est devenu un cher ami. Et peut y avoir des surprises. Pendant un temps, dans notre église au Mans, on avait 3 personnes au culte régulièrement. Il y avait Moïse, Aaron et Myriam. Ils venaient régulièrement au culte. Myriam, est-ce que j'ose dire, la grande sœur de Suzanne, et Moïse et Aaron, deux frères congolais. Et Aaron est reparti au pays, et un jour, donc Moïse, on le connaissait depuis 2 ans, et puis un jour il était table, et on parlait des choses et d'autres, et il dit, au fait, ma femme arrive la semaine prochaine. Ah, tu as une femme? Mais ça fait 2 ans qu'on te connaît. Ah oui, mais j'ai une femme et 2 enfants. On n'en revenait pas. Une surprise. Et puis sa femme est arrivée, les 2 enfants sont arrivés, et ils ont fréquenté l'église. Donc c'était de bonnes surprises pour nous, et on a pu aussi aller un peu plus loin avec lui et avec son épouse. Une autre chose qui peut arriver, et c'est très terre à terre, c'est qu'il peut y avoir des déceptions. Nous avions une jeune fille qui venait chez nous 2 midis par semaine pendant. Ça devait durer 1 année scolaire. Et après 3 mois, on s'est rendu compte que des choses avaient disparu de la maison. Et les choses qui avaient disparu, elle les a montrées à ses copines au collège. On a su par un des profs. Donc, on savait que c'est elle qui avait volé des choses dans une pièce qui lui était interdite dans la maison. Donc, on l'a confrontée. Le CPE du collège l'a confrontée. Les profs l'ont confrontée. Ses parents, elle a tout nié en bloc. Mais on savait que ce qu'elle avait pris, on savait que c'était elle, la voleuse. Peut-être 5 ans plus tard, elle nous a écrit. Elle nous a rendu ce qu'elle a volé, qui appartenait à un des enfants. Elle a demandé pardon à l'enfant et aux parents d'avoir volé et d'avoir menti pendant 4 ans. Parce qu'elle fréquentait notre église tout ce temps-là. Elle vivait dans le mensonge. Donc on était très déçus. Et je peux vous dire que quand on a su qu'elle avait volé et qu'elle ne voulait rien savoir, on a mis fin, pas au contrat, mais on a dit qu'on ne voulait plus l'avoir dans la maison. On peut être déçu parfois quand on aime les autres. Et puis aussi, on peut connaître des frustrations. Je me souviens, on avait une dame s'est convertie dans une église où on a servi le Seigneur. Et on savait que son mari n'était pas très chaleureux envers les chrétiens. Et on savait que son mari était un homme qui ne parlait jamais. Donc on a dit, on va le travailler, on va les inviter pour l'anniversaire de ce monsieur. Donc, son anniversaire, c'était la même semaine que moi. Donc, on les invite tous les deux, et je les revois sur notre divan. Brigitte et moi, on était là, ils étaient sur le divan, et lui, bouche fermée, et il s'ennuyait à mourir. Et il regardait partout. Impossible de décrocher un mot de cet homme. Sa femme était hyper gênée, donc elle parlait pour lui. Donc, quand je lui pose une question à lui, elle répondait. Et elle parlait de plus en plus et de plus en plus vite. Et il était gêné, même si ça ne se voyait pas, c'était une tête de marbre. Mais nous, on était gênés. Elle voulait évangéliser son mari. Donc, elle essayait de l'évangéliser. Elle voulait que nous, on l'évangélise. Mais nous, on était gênés. Et puis, on était frustrés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'était à l'apéritif. Pendant tout le repas, presque pas un mot est sorti de sa bouche. Je ne vous explique pas l'ambiance. Et puis, petit à petit, le Seigneur agit dans son cœur. Et on a commencé à se voir tous les deux pour lire la Bible ensemble. Il s'est converti miraculeusement, chaque conversion est un miracle. Il s'est baptisé, sa femme était déjà baptisée et on a pu aller plus loin avec eux. Mais vous savez, on était frustrés pendant des mois quand on les invitait, quand eux, ils nous invitaient. Parce qu'il paraît qu'il disait à sa femme qu'il aimait bien nous voir. Mais il ne disait rien. Le seul moment où il a commencé à parler, c'est un jour, il y avait un match de foot dans la ville et lui était sponsor avec son entreprise de cette équipe. Il me dit, David, je t'invite au match de foot. Et à la mi-temps, tu vas manger une merguez avec moi. Et à ce moment-là, il a commencé à parler. Et il a commencé à parler de l'Église. Il a commencé à parler de la Bible. Et pendant 2 ou 3 ans, pas un mot n'est sorti de sa bouche. On a été frustrés. Et on a dû prier, Seigneur, donne-nous la patience. Je termine avec un mot en langue étrangère. Tafudal, c'est un mot libanais. Je ne sais pas si c'est de l'arabe, peut-être, ou c'est un mot en tout cas libanais, qui veut dire « tu es mon préféré » ou « tu es ma préférée ». Pendant un temps, il y avait une jeune fille libanaise qui fréquentait notre église. Elle s'est mariée. Elle voulait se marier au Liban. Elle m'a demandé d'officier à son mariage, au Liban. Et ses parents m'ont dit, « David, on te paye, toi et ta femme, l'aller-retour à Beyrouth, et une semaine, tu seras logé dans la famille. » Ça, c'est l'accueil fraternel. À cause des événements là-bas, le mariage a eu lieu dans le midi de la France. Et donc, on n'a pas pu aller à Beyrouth. Et Brigitte n'était pas très chaude d'aller à Beyrouth à cause de certains événements. Mais ils ont mis en pratique, vous êtes notre préféré. C'est l'idée de donner, c'est le fait de donner l'idée à ceux qu'on invite, tu es vraiment bienvenu chez moi. Fais exactement ce que tu ferais chez toi. Mets-toi à l'aise. Alors si les gens que nous invitons, même dans notre église, si les gens savent que notre principe c'est tafudal, sois les bienvenus, tu es précieux à nos yeux, eh bien je crois qu'on aura accompli quelque chose par rapport à l'accueil et à l'amour fraternel. L'accueil peut être un tremplin pour annoncer la bonne nouvelle. L'accueil peut être un tremplin pour aider les chrétiens à grandir en Christ. Mais si nous nous aimons les uns les autres, le Seigneur nous aidera à nous accueillir les uns les autres à l'église et, si possible, à la maison où on peut discuter calmement, franchement, avec les uns et les autres. Que le Seigneur fasse de notre église et de nos foyers une église et des foyers accueillants, hospitaliers. Amen. Je laisse Florent par la prière.
Merci David pour ce partage d'expérience et ces exhortations. On vous rappelle que cet après-midi, ça continue et l'idée c'est aussi en église de réfléchir à ces choses-là, de discuter et puis de chacun nous laisser aussi interpeller par ces exemples bibliques et ces exhortations. Et j'aimerais finir, avant de prier, j'aimerais finir par, toujours dans ce passage de 2 Thessaloniciens 2, par le verset 16 qu'on a lu à la scène, et je finirai par le verset 17. « Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance » console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Toute bonne œuvre et toute bonne parole, chose qu'on peut pratiquer quand on pratique l'hospitalité. Prions. Père Céleste, merci parce que tu m'aimes, tu nous aimes chacun. Merci parce que tu nous as accueillis et alors qu'on n'était vraiment pas parfaits. Et Seigneur, c'est vrai qu'on a besoin de se repasser ça dans notre cœur pour être aussi à notre tour des gens accueillants, que ça soit dans notre voisinage, que ça soit dans notre travail, dans notre famille et aussi dans notre église. Et Seigneur, permet à chacun d'entre nous de progresser et en s'appuyant sur toi, sur ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Amen. Donc bon.